France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
En ce lendemain de Noël, je vous invite à retrouver un très sympathique invité qui nous a quittés le mois dernier alors qu'il filait sur ses 100 ans. Le dessinateur Piem nous racontera sa vie d'aristocrate engagé, de dessinateur à l'Olympia, de fantaisiste chez Jacques Martin. En fin d'émission, Serge Laïc a concocté un cocktail de musique légère. Mais puisqu'on file tout droit vers le nouvel an, chantons sans plus attendre le réveillon et tout ce qu'il faudra éviter de faire pour cause de crise sanitaire.
S'embrasser en se souhaitant de vivre longtemps. Oui, chantez, dansez, surtout amusez-vous. Quand je vais chanter à Pékin, à Londres, à Rome, à Berlin, je m'arrange toujours pour passer le réveillon à Paris. Moi qui suis un vagabond, mon cœur a mille raisons d'être présent pour fêter le réveillon à Paris. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, la neige peut tomber ce soir. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, c'est quand même une nuit d'espoir. Ah, 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 si je pouvais changer les jours du calendrier, je ferai du premier de chaque mois le réveillon à Paris. Madame, connaissez-vous votre voisin? Non? Alors serrez-lui la main. On est tous là pour passer le réveillon à Paris. Monsieur, connaissez-vous votre voisine? Comment vous dites que c'est votre cousine? Elle est venue pour fêter le réveillon à Paris. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, la neige peut tomber ce soir. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, c'est quand même une nuit d'espoir. Ah, ah. Au monde, il y a cette merveille, des cieux au bleu sans pareil. Mais il n'existe qu'un seul réveillon.
Le sympathique Georges Guettari dans l'opérette Pacifico qu'il jouait avec Bourville et Pierrette Bruno à la Porte Saint-Martin l'hiver 1958. La musique est signée Joe Moutet, grand chef d'orchestre de variété que j'aime beaucoup. Il était né à Montaigu-le-Blain dans l'Allier en 1926. Il est mort en 2002 et les téléspectateurs des années 70 se rappellent au moins de lui ce générique de l'émission Aujourd'hui, Madame. J'adore ce générique avec cette voix de vocaliste au perché comme on aimait à l'époque. Mais en ce temps de réveillon, je songe aussi avec nostalgie à cette grande amie qui nous a quittés en mars dernier en plein confinement. Elle aurait eu jeudi prochain 103 ans. Vous voyez qui je veux dire? La voici justement avec l'orchestre de Joe Moutet.
Je connais un doux pays où l'on vit tranquille. C'est un peu du paradis, oui, mais qu'y faut-il? Des oranges, du tabac, du café, des oranges, du tabac, du café, toujours couché sur le dos. Et le vent debout, à mi-voix, un peu de mots, on parle du goût des oranges. Du tabac, du café, des oranges, du tabac, du café, oh, si l'on a soif dans ce pays, oh.
Connu tout entière avec son caractère, Suzy Delair bien sûr dans cette chanson Orange Tabac Café, accompagnée par l'orchestre de Joe Moutet. Et puis tiens, avant de retrouver Piem, encore un petit cadeau de Noël, le merveilleux Pas de Troie du Guillaume Tell de Rossini.
Thank you.
La danse légère, c'est le titre de ce Pas de Trois, un des ballets trop peu connus du Guillaume Tell de Rossini. Trop peu connu, mais heureusement, le grand, l'immense Ricardo Chailly a eu la bonne idée de les enregistrer à la tête du National Philharmonic Orchestra.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et je vous le disais, j'ai voulu en cette période de fête vous proposer de retrouver un artiste et un homme disparu le 12 novembre dernier. Il avait 97 ans, il aimait la chanson et le musical presque autant que le dessin, comme il vous l'expliquera dans un instant. C'était mon entretien du 28 novembre 2009 avec Piem.
Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax.
Et talent avec jactance, avec jactance, avec jactance, leur double thorax.
Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax, les deux Ajax.
Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax.
Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, un contre mille, un contre mille, grâce à mon plongeon.
Grâce au plongeon.
J'aurai l'esprit bien tranquille, n'était mon talent. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon.
Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon.
Je suis... Qu'est-ce que je suis?
L'époux.
Comment?
L'époux.
L'époux? Ah oui, l'époux, oui, je suis l'époux de la reine Pou, de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine Pou, de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas.
Qui est l'époux de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas? Qui est l'époux de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas?
Le roi barbu qui s'avance, puis qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon.
Agamemnon.
Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'en dire plus long.
D'en dire plus long.
J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, puis qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon.
Le roi barbu qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon.
Bonjour Piem.
Bonjour Benoît.
Je n'ai pas choisi seulement cette musique célèbre d'Offenbach parce qu'elle était très chère à votre ami Jacques Martin, qui a chanté d'ailleurs le rôle de Ménélas.
Absolument.
Mais aussi parce que ça finit par le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance. Alors, barbu, vous l'êtes. On vous a connu à la télévision avec votre belle barbe.
Oui, c'est vrai qu'elle était plus dense à ce moment-là, hein, mais c'est comme tout, ça passe un petit peu. Je ne sais pas du tout d'ailleurs pourquoi j'ai fait pousser cette barbe. Je ne sais pas si ça correspondait. Oh, un âge où ça commence à pousser quand même.
Ah, voilà, mais... Vous l'avez toujours gardé après.
Et je l'ai gardé, oui.
Voilà. Barbu et roi, parce que vous n'êtes pas tout à fait roi, mais vous vous appelez quand même de votre vrai nom, Pierre de Barry de Montvallon. C'est-à-dire oui. Un nom à double rallonge, si je puis dire.
Absolument, oui. Je n'ai pas honte du tout d'ailleurs de cette famille. C'était des bagarreurs, des révolutionnaires de l'aristocratie d'Aix-en-Provence.
Oui.
Et je crois qu'ils avaient très mauvais caractère, donc ça prouve qu'ils avaient du caractère, ce qui n'était pas si mal. Mais ça m'a amené quand même à réduire avec mes initiales. J'ai commencé à signer PM de mes initiales tout de suite après la guerre, mais on m'a dit qu'il fallait avoir un pseudonyme qui existe vraiment. Alors j'ai rajouté PEM, et puis quelqu'un m'a dit qu'il dessinait sous ce pseudonyme aussi depuis un certain temps. Donc j'ai rajouté ce hiatus de PIEM,
voilà.
Qui ne se prononçait pas du tout avant que Jacques Martin le prononce une fois par semaine.
C'est lui, et... en fait, qui a lancé l'habitude de dire Piem, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parce qu'au téléphone, ça donnait des choses étonnantes. On disait, de la part de qui je disais Piem ? Comment ? Alors, c'était Paul Isidore Ernest Maurice, c'était pas très pratique. Alors, moi, j'ai transformé ça par prodigieux, irrésistible, extraordinaire et modeste.
Il faut dire, sur vous. Ah oui, ah, oui, ça, modeste. Bien, oui, c'est ça.
Voilà. Voilà. Mais il faut aussi l'ambition, mais il faut aussi. Je suis pas contre l'ambition.
Il faut dire que vous avez évoqué vos ancêtres, ils ont été suffisamment célèbres pour que Stendhal et Mirabeau écrivent
absolument,
quelques lignes sur eux.
Absolument, ils étaient dans le secret, oui.
Des grands personnages.
Ils existaient.
Voilà. Vous n'êtes jamais devenu royaliste pour autant.
On parle politique tout de suite.
On va en parler tout à l'heure parce que votre nouveau livre est très, très engagé, comme on va le voir. Et...
sur le plan mondial, pas seulement sur le plan du droit de gauche.
Absolument. Alors Piem, avant d'en venir justement à la politique, encore une chose, donc on a commencé avec Offenbach, je me demandais, c'est quoi la place de la musique, disons, dans votre vie quotidienne ? Je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs, par exemple, qui dessinent toujours en écoutant de la musique. Est-ce que vous travaillez comme
vous
ça ?
C'est bien sûr vous qui connaissez tout, d'après ce que je vois. Et de qui est ce silence ? Il est de Mozart.
Exactement.
Donc, je crois que la musique, elle existe aussi quand elle n'existe plus. Oui. Elle met en valeur aussi les silences, parfois. Et je me rends compte que dans mon travail, qui n'est pas un travail, bien sûr, mais c'est avec ou sans musique. Mmh. Et l'imagination, je crois, doit se dispenser de musique parce que c'est faire du tort aussi à la musique. Oui, elle peut accompagner la peinture, elle peut accompagner ce genre d'abstraction, mais dans les textes, moi, ça me dérange. Et comme j'ai la chance d'avoir un très beau grenier en Touraine, qui date aussi à peu près de l'époque de ma famille, là, c'est ma
à la Grange de Mêlée,
pas loin de la Grange de Mêlée, absolument.
Vous avez entendu Richter là-bas ?
Non, j'ai vu le drapeau rouge sur la Grange, et donc, puis c'était de la famille du côté des Elisabeth, ma chère épouse depuis 62 ans, la propriétaire était furieuse de voir le drapeau rouge sur la Grange de Mêlée. Enfin, oui, c'est ça. Donc, le silence aussi a son importance. Uh-huh. Et mon grenier se prête au silence.
Donc, vous travaillez plutôt dans le recueil.
Mais je ne travaille pas. Vous savez bien que j'ai cette chance étonnante d'avoir eu tous les malheurs et tous les bonheurs du monde. Uh-huh. Donc, ça n'arrête pas. Ça peut continuer indéfiniment. Il y a 15 jours, j'étais au Vatican. J'ai couché 3 jours au Vatican.
Au Vatican même ?
Oui, ils ont un hôtel 3 étoiles maintenant, pour vous dire, bien installé. Mais oui, tant que la vie m'apportera ces découvertes étonnantes, eh bien, je serai là pour les faire vivre et les vivre.
Alors, à propos de la vie, de tout ce long parcours, on va remonter très très loin dans le temps, au temps de vos premiers souvenirs musicaux, peut-être.
Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Est-ce ton œil si doux qu'il est mine, ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous? Oh, Catalinette avec la tch, écoute, l'amour t'appelle tch. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah, plus tard quand tu seras vieille, tch, tu diras baissant l'oreille, tch, si j'avais su dans ce temps-là. Ah, ah, oh ma belle Catalinetta. Pourquoi donc te montrer si rebelle? L'amour c'est une chose éternelle. Demande-le, crois-moi, à ta mère. Elle l'a chanté avec ton père bien avant toi. Oh Catalinetta bella, écoute, l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah, plus tard quand tu seras vieille, tch, tch, tu diras baissant l'oreille, tch, tch, si j'avais su dans ce temps-là. Ah, ah, ma belle Catalinetta. Thank you. vieille, tch, tch, tu diras baissant l'oreille, tch, tch, si j'avais su dans ce temps-là, ah, 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 ma belle Catherine.
C'est quand même quelque chose, hein.
Ah, vous voyez, hein,
par rapport au rap.
Ça vous est... Vous préférez ça au rap?
Ah oui, oui.
Ah bon?
Oui. Je trouve qu'il y a de la douceur, et dans le rap, il n'y a pas de la douceur, il y a de la vengeance, la violence. Et c'est bien qu'elle s'exprime, cette violence. Mais à force de vouloir soi-disant être dans le vent, ouais, et ne parler que de ça, de violence, de méchanceté, on finit par y arriver, je crois. Hein.
Et donc, Tino Rossi, ça vous ramène vraiment à vos premières années?
Absolument, oui. C'était... On avait un phonographe, on mettait ce disque, et puis moi, je me revois très bien le chantant en ayant l'impression que j'étais le héros qui était sur scène.
Ah oui.
Je ne savais pas le sens des paroles, d'ailleurs, amour, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Vous savez bien qu'à cette époque, en plus, l'éducation religieuse, voilà, à l'Irlande aujourd'hui, on ne savait pas ce que c'était. Mais j'étais, oui, fleur rose, dans mon petit costume marin, sans doute, de l'époque. Voilà. C'était il y a longtemps, puisqu'on fêtera le bicentenaire de ma naissance, le 12 novembre 2123. Ça fait quand même un paquet, donc là, j'avais 5-6 ans, c'était très à la mode tout ça.
Voilà. Et alors votre engagement, on va parler de l'engagement un peu aujourd'hui, il commence au fond dès le début de la guerre, à peu près, ça correspond à ces années-là, quand vous êtes entré à la GEC, hein, la jeunesse étudiante chrétienne, qui existe toujours d'ailleurs.
Qui existe un petit peu au ralenti, mais qui existe. C'était un moment quand même où, surtout dans cette période après qui était l'occupation, il y avait les communistes qui avaient les mouvements de jeunesse, et puis les paroisses. Hein, c'était dans la ceinture, la grande banlieue, c'était ça aussi.
Mais c'était pas forcément si éloigné que ça.
Non, c'était... les communistes sont des rêveurs aussi. Hein.
Oui, c'est ça.
Les G6 l'étaient aussi. Mais alors, le seul regret que je peux avoir de cette époque, c'est que les maîtres à penser religieux n'étaient pas tout à fait les êtres que je croyais être, et que l'on découvre un peu aujourd'hui. C'est pour ça que je vais mettre de l'ordre au Vatican, mais j'y arrive mal. Parce que c'était quand même passionnant, ça m'a amené à faire du théâtre, beaucoup plus de théâtre d'ailleurs que de pensée pieuse, mais j'étais quand même turiféraire, avec l'encensoir, je chantais l'épître en latin, Lectio Epistoli Beati Pauli Apostoli.
Ah oui,
bon, en tango, ça va être pas mal, mais je déteste le latin pour parler de Dieu et d'amour, il faut parler en français.
Et alors, donc, dans le même sillage, si je peux dire, vous êtes entré, donc, à vos tout débuts, enfin, vous avez commencé à travailler pour un journal, disons, chrétien, de gauche, comme on dirait aujourd'hui, qui était Témoignage Chrétien.
Il était de gauche parce qu'il était résistant. J'aime cette simplification des problèmes politiques. On en tirera les conclusions que l'on voudra. Ouais. Aujourd'hui, c'est le doute. Ouais. Mais effectivement, Témoignage Chrétien a été créé par un jésuite, le père Chaillet, à Lyon. Ouais. Ouais. Et il résistait, ce qui était quand même, il faut le reconnaître, très très rare à cette époque.
À l'intérieur du clergé.
À l'intérieur du clergé et des chrétiens. Ouais. Bon. Donc, ça a été passionnant. Et donc, à la libération de Paris... j'ai travaillé pour eux et puis je me suis engagé. Enfin, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais
Vous êtes même allé rejoindre André Malraux sur la ligne de front pour lui porter des numéros de Témoignage Chrétien.
Le numéro spécial de Témoignage Chrétien qu'il avait d'ailleurs reçu par la poste militaire bien avant nous. Alors, mais enfin, c'est pas grave, c'était de belles aventures. Mais c'est vrai que les prises de position à ce moment-là étaient quand même importantes. Si on parle des belles années, je crois que dans le syndicalisme, par exemple, il y avait le SNJ qui était le syndicat national des journalistes. C'était quasiment le seul.
Ouais.
Et puis après, ils sont venus se greffer l'état de syndicat. Et en même temps, le pouvoir de la presse était un pouvoir réel. Le Figaro, journal bourgeois, bon, pourquoi ne pas le dire. Bourgeois, d'ailleurs, ça veut tout dire et rien en même temps. Il y avait François Mauriac, c'était le journal de Pierre Brisson. C'était extraordinaire pour moi, tout jeune, de rentrer dans ce monde-là. Mais tout en ayant une opinion de liberté, ou de l'existence, de la responsabilité de l'homme, qui était celle qui venait de mon éducation, certainement, et puis des gens que j'ai été amené à côtoyer.
Et c'est au Beaux-Arts, où vous avez été diplômé, que vous avez décidé de devenir plutôt dessinateur de presse plutôt que peintre ou...
ma vie n'est faite qu'un hasard et de rencontres. La nôtre est un des derniers hasards et un des derniers bonheurs, dont je ne sais pas ce que sera demain. Peut-être que vous serez mon gendre, je ne sais pas.
Ah bah écoutez...
Mais le Témoignage Chrétien et les Beaux-Arts, je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. C'est le besoin qui a créé l'homme.
Ouais.
Je n'avais pas de projet de carrière. Alors qu'aujourd'hui, ça se trouvait là, et je suis plutôt un premier actif, voilà. J'agis, et je pense après. Et j'ai la chance, quand même, qu'en général, je n'ai pas pensé à tort.
Alors, pour évoquer cette période de la libération, j'ai trouvé encore une musique qui ne devrait pas non plus vous être tout à fait indifférente.
Johnny comes marching home again. Hooray, hooray. We'll give him a hearty welcome then. Hooray, hooray.
All the men will cheer and the boys will shout. The gals dress up and they'll all turn out.
And we'll all feel gay when Johnny comes marching home.
Get ready for the Jubilee.
Hooray, hooray.
He'll get three cheers from you and me.
Hooray, hooray.
Uncle Sam will prove he's still the champ. He'll close up shop and break up camp.
And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. When Johnny comes marching home. When Johnny comes marching home.
When Johnny comes marching home.
Johnny comes marching home.
Ah, c'était hier. C'était hier, mais c'est toujours aujourd'hui. Hein, c'est oui. Ça qui est pas mal.
Alors là, c'est vraiment le son de la libération,
absolument.
Presque.
Ah, oui, absolument. C'était joyeux, c'était inespéré presque. Et on rentrait dans un autre monde, voilà. Avec quand même quelques difficultés.
Vous étiez quand même sur la place de Notre-Dame quand De Gaulle
absolument.
Est arrivé.
Le télégramme de De Gaulle à Notre-Dame, j'y étais. Il y avait les tireurs sur les toits qui ont malheureusement, à ce moment-là, atteint et tué le père d'un de mes amis.
Ah oui.
Et quand on est retourné le soir chez lui, la concierge lui a dit ben, on ne sait pas où est votre père, dans un hôpital, mais etc. Donc c'était fête, mais drame en même temps.
Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que vous avez connu Jean Pia.
Absolument, c'est dans les mouvements de jeunesse. Alors on jouait des petites piécettes qui mettaient pas l'église en danger, ni l'église d'Irlande. C'était un dénommé Max Régnier qui faisait ces petites choses. Et j'ai joué donc avec Jean Pia, qui était mon partenaire de JEC à l'époque.
Ah, oui.
Et on a bien entendu continué les liens fraternels et amicaux. Et c'était bien, c'était une époque où on inventait, où on osait faire des choses. Et le théâtre, c'était ça. Comme je voulais faire du théâtre, c'est lui qui a fait le théâtre et moi les beaux-arts.
Alors,
je suis arrivé à regrouper les deux. Quand
restons
même.
Justement sur le sujet de la scène, du musical, du cabaret, parce que évidemment tout le monde connaît votre talent et votre art de dessinateur.
J'ai encore connu des gens qui ne le savent pas.
Ah bon, alors on va leur rappeler.
C'est très bien comme ça.
Mais en tout cas, ce qu'on connaît moins, c'est votre activité effectivement sur scène avec des artistes et notamment avec des chanteurs. Alors comment ça s'est fait cette façon de travailler au cabaret avec Juliette Gréco, avec Barbara, avec Georges Brassens, Fernand Reynaud et tant d'autres. Racontez-nous un petit peu.
Eh bien, donc, l'amour de la scène ou de la communication faisait que, de toute façon, que ce soit musique, silence, trait, danse, tout ça sont des moyens d'expression vers l'autre, vers la communication.
Ouais.
Donc j'ai la maladie de la communication, sans passer par des directeurs de communication qui me diraient ce qu'il faut faire, mais
non, ça, c'est
important.
Pas nécessaire.
Donc la musique c'est aussi un trait, c'est pas à vous que je vais le dire, je vais l'apprendre. Mm-hmm. Donc à partir du moment où il y a un trait, je faisais aussi accompagner ce trait par de la musique.
Ouais.
Donc tout était possible dans la communication. Et un jour, un de mes amis me dit, parce que j'en ai encore. Oui, il est encore vivant celui-là, car ça meurt très vite aussi les amis, c'est ça qui est terrible dans la vie. Bon, donc, me dit, est-ce que ça t'amuserait de dessiner dans un cabaret en première partie d'un spectacle? Parce que c'était l'époque aussi où les vrais artistes, je crois qu'il n'y avait pas obligé de faire l'entrée, le plat de résistance et
ah
le
oui,
dessert.
D'accord,
il y avait, comme dans un menu, il y avait une mise en bouche.
C'est vrai, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, finalement, on a des one-man shows qui n'en finissent pas.
Et qui sont grotesques, d'ailleurs, dans cette demeure. Mais je crois que financièrement, ils ont intérêt à prendre tout l'argent.
Oui,
quitte à bien fait, la République. Mais à cette époque, c'était comme ça. Donc, il y avait entrée. Et je faisais partie de l'entrée. Et c'est évident que si l'entrée était ratée, le plat de résistance n'était pas bon non plus. Donc, il fallait forcément que les deux soient corrects.
Mais comment ça se passait? Alors, vous dessiniez
alors,
sur scène?
Alors, il s'agissait, la première fois que c'était le cabaret, un peu ce que j'ai fait au Petit Rapporteur, mais vous êtes trop jeune pour savoir ça.
Ah non, le Petit Rapporteur, oui. Et oui,
bah,
oui
c'était pareil.
C'était pareil.
C'était un effort. C'était exactement la même chose. Bon, j'avais mon chevalet, mes grandes feuilles de papier, et je racontais quelque chose.
Alors,
et...
il faut peut-être citer le nom du cabaret. Alors, vous avez
c'était formidable. C'était voilà. La tête de l'art.
La tête de l'art.
L'apostrophe voilà. ART. Mais je voilà. crois que ça avait appartenu à un Suisse, m'a-t-on dit avant. Bon. Et ce cabaret se trouvait à Nuit de l'Opéra.
Oui.
Et c'était assez formidable. Il y avait une équipe formidable de restauration, et puis pour le spectacle aussi. Celui qui a été chargé des spectacles s'appelle Jacques Provence.
Oui.
Et après, il s'est allé installer à Monaco. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que la voiture dans qui est tombée, dans laquelle il y avait la princesse, est tombée dans le jardin de Jacques Provence. Oui. Ça n'a rien à voir, mais ça m'amuse.
Oui,
enfin, ça m'amuse.
Oui, c'est une étonnante coïncidence.
Donc, le cabaret de la tête de l'art, il y avait quelques marches. On passait devant le bar, puis il y avait quelques marches pour atteindre la salle. Il faut voir ça la nuit avec l'éclairage électrique, parce que le jour c'est crasseux, c'est épouvantable. Tandis que là, il y a tout le mystère de l'éclairage, mais il y avait trois marches. Et le responsable qui accueillait le tout Paris dans son cabaret avait une façon d'aider les dames à descendre ces trois marches avec une main qui allait se poser légèrement pour les soutenir sur l'arrière. Et c'était très, très délicat. Et tout ça était très délicat, la tête de l'art. Et le spectacle était formidable. Et comme c'est tout petit et c'était un peu crasseux quand même, ouais, vous vous rappelez ce que c'était, tous ces cabarets. Et on était en contact très fort avec les personnes, avec la vedette.
Avec les chanteurs, c'est là où c'était
absolument.
Pas complètement cloisonné.
Ah, non, absolument pas. Sa loge, c'était d'anciennes caves aménagées.
Ouais.
Donc la loge était minable, il n'y en avait qu'une, bien sûr. Et j'ai commencé avec Juliette Gréco, qui était avec Michel Piccoli à ce moment-là, ce qui fait que c'était formidable comme ambiance après le spectacle.
Enfin, ouais,
c'était joyeux, quoi. C'était extraordinaire.
Et j'ai pu voir.
Alors, j'ai dit Juliette Gréco, c'était formidable. Puis j'ai rencontré Barbara. Alors là, c'est plus que formidable.
Ouais,
c'est pas pour Juliette Gréco, c'est pas le même genre. D'ailleurs, Juliette a bien raison de continuer.
Ouais.
Et j'appelle Juliette, mon Dieu. Je sais que j'avais le numéro de téléphone de sa chambre à côté de mon lit, ça plaisait pas à Elisabeth. Non, enfin, c'est pas grave. Donc,
Barbara, c'est
ma femme, plus 62 ans. Barbara, c'est formidable, parce qu'elle passait du rire aux larmes avec un talent étonnant. D'ailleurs, elle était simplement avec son piano, c'était elle et le piano. Et c'était formidable de maîtrise. Mais elle venait trois quarts d'heure avant ou une heure avant, hein, parce que le trac, soi-disant, enfin, elle l'avait, pour se mettre dans cet état-là de communication.
Et Fernand Reynaud?
Fernand Reynaud, c'était vers la fin de sa vie. Oui, non, c'était il avait une Rolls blanche décapotable extraordinaire. Et il s'est jeté dans le mur d'un cimetière.
Ouais.
C'est là où il était enterré pour des raisons d'économie, je crois. Il avait, quand on disait. Mais il a été formidable. C'est lui qui m'a dit, va à l'Olympia. Fais ton petit numéro, fais-le à l'Olympia. C'est pour ça, d'ailleurs, que quelques temps après, j'étais à l'Olympia.
S'aiment, s'embrassent debout contre les portes de la nuit, et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit. Excitant la rage des passants, leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus haut que le jour, bien plus loin été de leur premier. Bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier.
Une évocation de ce Paris des années 40-50 avec Cosma, Prévert et bien sûr la
bien
voix
sûr, bien
ici
sûr.
De Juliette Gréco. Piem, vous nous avez raconté donc votre rencontre à la tête de l'art avec Gréco. Et puis donc, plus tard, vous avez continué donc de plus grandes scènes à Bobino et à l'Olympia, notamment avec encore d'autres très grandes figures. Je pense notamment à Brassens et à Liza Minnelli. Même.
Ben oui, mais bon, c'est Fernand Reynaud qui m'avait dit « va donc à l'Olympia », ça me paraissait amusant.
Ouais.
Ça, c'était dur quand même. Hein. Ouais. C'était vraiment un grand trou noir.
Dessinateur sur la scène de l'Olympia,
grand, hein.
En première alors, partie d'une grande vedette. Ouais.
J'avais ce grand vide noir devant moi.
Ouais.
Et c'était assez impressionnant. D'ailleurs, ça a commencé un dimanche, il y avait matinée et soirée.
Ouais.
Et monsieur, rappelez-moi son nom, le patron de l'Olympia.
Cocatrix.
Avait fait cadeau de ces deux spectacles au Fonds Juif International, ce qui était gentil de sa part, mais il m'avait pas tenu au courant.
Ah oui.
Donc, c'est gentil de faire du cadeau avec le travail des autres.
Avec votre cachet.
Mais c'était quand même du courage pour moi d'aller là. Et alors, donc, après ce premier passage, les silences sont lourds. J'avais demandé à l'orchestre de l'Olympia, qui, comme vous savez, il est très discret, derrière le rideau de tulle, de me jouer une petite musique d'accompagnement. Donc, pour le deuxième passage, j'ai eu la petite musique d'accompagnement de l'Olympia. Je me suis accroché à mes feuilles tellement ça volait, ça faisait un boucan du feu de Dieu. Et résultat, je suis reparti avec le silence. Et quelqu'un qui m'avait engagé dans cette aventure m'a dit que c'était pas nul. Donc ça n'a pas dû être nul, mais vraiment c'était rude. Bobino, c'était beaucoup plus fort.
Ouais.
Mais Bobino, c'était pas la même dimension de salle.
Bien
et
sûr,
puis c'était pas aussi le même public, hein, parce que ça compte aussi ça.
Elle était gentille, Liza Minnelli.
Alors là, c'est Liza Minnelli, c'est à l'Olympia.
Ah, c'était encore à l'Olympia.
Oui, eh bien, je n'ai pas touché la main de Liza Minnelli ni de Bruno Cocatrix, donc je ne sais rien d'eux.
Avec Brassens, c'était mieux. Oui.
Bon, avec Brassens, on sait que ça peut être mieux.
Voilà. Oui, exactement.
Ça pouvait être une chance. Mais c'était Bobino. Bobino, c'est, je me rappelle très bien, là. C'était quand même un peu inquiétant, parce que, un micro, puis rien, pas de musique, pas d'accompagnement, et blablabla, et blablabla. Mais blablabla, quand ça marche, c'est bien, quand on fait, justement, quand on crée l'étonnement et la surprise. Et celui qui passe avant moi, car nous étions plusieurs dans les apéritifs, les débuts de repas, il y avait un chanteur avant moi qui s'est planté complètement. Ce qui fait que on a allumé dans la salle, on a allumé sur scène, et moi qui avais croqué mon petit équanil depuis 4 jours pour me conforter et que je ne panique pas, voilà qu'on me pousse au dos en me disant va vite devant, arrange-moi ça, puisque ça chahutait beaucoup. Donc moi qui étais inquiet et angoissé, je suis rentré avec la salle qui chahutait à Bobino et ça chahute. Il y avait un balai qui était là, j'ai pris le balai, j'ai balayé, et ça a été gagné.
Voilà.
Donc,
oui, faut une
se lancer dans l'aventure, si j'étais rentré dans une arène du temps des chrétiens, sans doute ils ne m'auraient pas mangé, les lions, parce que j'aurais sans doute inventé quelque chose.
Toute cette époque, Piem, vous avez évidemment aussi continué à dessiner beaucoup dans les journaux, et vous avez notamment travaillé dans un journal socialiste qui s'appelait L'Unité,
oui.
Où vous côtoyez de façon très très régulière un futur président de la République.
Je tenais une rubrique qui s'appelait « Dis papa, c'est quoi ?».
Ah oui.
C'était des petits, un enfant qui expliquait, ou plutôt qu'il ne savait pas, et qui demandait à son père des explications, et je veux dire que les explications du père étaient, enfin aujourd'hui il se régalerait le père, il ne comprendrait rien du tout. Et c'est vrai que Mitterrand avait la page de droite, c'est normal, et moi la page de gauche.
C'était vous qui étiez à gauche et Mitterrand à droite.
Avec ma rubrique, dit papa c'est quoi. Alors si certains ne peuvent pas comprendre, mais ils disent où es-tu aujourd'hui, qu'ils le crient très vite, je ne sais pas où je suis.
Vous savez pas où vous êtes. D'autant plus que vous avez aussi dessiné dans le Figaro, dans des journaux dits de droite. Mais qu'en même temps, quand on parcourt vos albums de dessins, de textes, et notamment le dernier, La Terre jusqu'au Trognon, qui vient de paraître, il y a un côté quand même très engagé, très féroce. On se dit que parfois vous pourriez aussi bien dessiner presque dans Charlie Hebdo ou dans des journaux d'extrême gauche.
Oui, mais c'est pour ça qu'ils m'aiment pas beaucoup.
Ah oui, alors c'est ça qui est compliqué dans la vie. Oui, c'est ça. Oui.
Non, mais celui qui veut être une terreur, pendant ciné, par exemple.
Dénoncer le capitalisme. C'est plus facile dans un journal de droite que dans un journal de gauche, en fait.
Pourquoi ? De toute façon, aller approuver dans un terrain où tout le monde pense pareil, c'est pas une bataille, ça.
Là, vous avez raison.
On va dire en même temps, oui, mais tu trahis. Ça m'est arrivé dans mon déplacement au Vatican,
ouais.
Alors que je suis tout à fait contre Benoît très étroit, avec des amis qui sont très engagés dans un autre sens, eh bien, la bataille, il faut la faire sur place.
C'est ça.
Le reste, ça n'a aucun intérêt. Je suis désolé, d'ailleurs, moi, il y a des dessinateurs de gauche, comme on dit, que j'aime bien, mais ouais. Je ne sais pas s'ils sont de gauche ou si c'est le terrain qu'ils ont trouvé pour être de gauche. Ouais. C'est comme en politique, il y a des gens qui se trouvent UMP ou je ne sais plus quoi, parce qu'il y avait une place à prendre.
Enfin, disons que vous êtes un critique virulent de la société contemporaine et de son évolution.
Quelle est la place de l'humour ? Un humoriste, c'est un homme de bonne mauvaise humeur.
Ouais,
que ça
ouais,
soit
ouais,
bien
ouais,
entendu. Ouais. C'est pas pour le désespoir, parce que la véritable espérance, et cela je vais sortir du Bernanos, la véritable espérance, c'est la désespérance surmontée.
Ouais.
Donc ce sont des vraies valeurs, ça. Et c'est celles que, avec le temps, mais que j'ai toujours eues, je crois. Mais ça veut pas dire que j'ai toujours eu raison, ou que j'ai réussi mon coup. J'en ai raté des coups, bien entendu. Et parce que je suis allé au-delà de ces ratages et de continuer, c'est le courage que je demande à tout le monde. J'ai une chance formidable, c'est de faire le métier, enfin de faire les choses que j'aime.
Alors, dans votre dernier livre, il y a à la fois le dérèglement du climat, l'exploitation des plus pauvres, avec un mélange de textes et de dessins d'ailleurs.
Il y a aussi quelques petits textes.
Une obsession sur laquelle vous avez, enfin, qu'on nous passe beaucoup à partager aussi, celle des déchets, le monde, la civilisation des déchets, comme ça.
La consommation excessive, c'est monstrueux,
ouais.
Ça.
Ouais.
C'est, quand on sait donc qu'on arrive à 1 milliard de crève-la-faim. Il y a le mélange de texte et de dessin, parce que la question essentielle, c'est de communiquer. C'est-à-dire, non pas faire passer un message, mais si je vous parle d'amour, je vous parlerai d'amour avec tous les moyens possibles.
Mm-hmm.
Des mots qui sont corrects, bien entendu. Mais de guerre, de vengeance, il faut jouer le jeu franchement, je crois. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est l'hypocrisie.
Ouais.
C'est quand même un manque de courage d'aller avec ceux qui hurlent sous prétexte d'avoir raison.
Ouais.
Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, ce qui me désole, justement, c'est que on ne sait pas où on va.
Ouais.
Et ce livre-là...
Oui, ce sentiment qu'on va vers un mur, comme vous disiez à propos de Fernand Reynaud, mais...
Ouais, pas le même, mais... La question, c'est que si on a des moyens de partager... j'ai bien compris que la musique, l'opérette, pour vous, c'est important, et que vous communiquez avec vos auditeurs. La chance de la radio, c'est qu'il n'y a pas une caméra pour voir que vous ricanez ou que vous emmerdez quand je vous parle.
Ouais.
Non, mais là, il y a quand même... on peut rêver. On peut rêver, il n'y a pas de choses imposées. Et aujourd'hui, si on regarde quelqu'un dans la rue, il dit « Pourquoi il me regarde ? Je n'ai rien fait. » Vous savez bien, je tombe dans tous les poncifs de l'ordinateur, de l'informatique, de tout ce qui est là, qui fait que l'homme a peur de l'homme. Et dans mon livre... Quand je l'ai reçu imprimé, j'ai dit, tiens, c'est pas mal. Je l'aimais bien à 80%, ce qui est quand même pas mal. Et puis le lendemain, c'était 70. Et puis le surlendemain, c'était 50. Je le trouvais désordre. Eh bien, ce livre, il est un peu désordre parce qu'il traite sécheresse, inondation, famine, trop d'eau, trop de faim, trop d'hommes. Donc, il est pagaille comme le monde est pagaille.
Je frappe au numéro 8. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle ? Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je frappe au numéro 9. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle ? Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je frappe au numéro 10. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle ? Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je frappe au numéro 11.
Je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté. Je frappe au numéro 12. Je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas.
Bon, on va pas passer tous les numéros.
Non, ça ne finit pas, c'est comme la Bible.
Mais vous chantez dans le cœur.
Hein, oui, oh, mais j'ai bien connu ma voix, absolument.
Vous avez bien connu votre voix. Alors, il faut quand même dire, c'est extraordinaire, vous êtes en compagnie de vos amis Pierre Bonte, Pierre Desproges, Daniel Prévost, Stéphane Collaro et bien sûr Jacques Martin. C'était la musique du ça. Petit rapporteur.
Et c'était Desproges qui avait amené cette chansonnette sur le plateau.
C'est Desproges qui l'avait trouvé.
Oui,
parce que moi, j'ai aussi le souvenir, quand j'étais petit, de La Pêche au Moule.
La Pêche au moule. Oui, oui.
Hein,
La Pêche au Moule, c'était Jacques Martin.
Voilà.
Il y avait dans ces chansonnettes quand même une espèce de dynamisme, de douce folie qui n'a pas été désagréable. Et là, quand on chante La Pêche au Moule, quand j'ai la chance de rencontrer du monde, évidemment, pour d'autres, ça serait La Marseillaise. Moi, c'est La Pêche au Moule, restons modestes.
Mais Le Petit Rapporteur, écoutez, ça nous a tous beaucoup, beaucoup marqué quand on était donc enfant ou adolescent pour certains. C'était en 1975 que ça a commencé, je crois.
Ah oui, j'avais 50 ans, moi, déjà.
Vous aviez déjà 50 ans. Et vous avez trouvé où, Jacques Martin? Il vous connaissait par
Bobino. Voilà. C'est parce que lui, il est un peu paumé dans sa radio. Il a donc voulu remonter sur scène. Il l'a bien fait et c'était Bobino qui lui offrait une scène, mais c'était en deuxième partie. Donc, après Brassens,
oui,
qui d'ailleurs, j'ai pas de chance, ou eux n'ont pas de chance, parce que Fernand Reynaud est mort
peu après votre spectacle.
Peu après notre passant ensemble. Brassens, c'était la même chose. Donc, méfiez-vous de moi quand même pour la chansonnette.
Mais en tout cas, Le Petit Rapporteur, évidemment, c'est une émission qui a été très très célèbre. Alors, est-ce que vous êtes content finalement d'être resté associé dans l'esprit de beaucoup de gens à une émission de télévision, vous qui avez fait tant de livres et de dessins et de textes dans votre vie?
Eh bien, mon cher Benoît, qu'est-ce que c'est que l'ambition? Qu'est-ce que c'est que la prétention? Qu'est-ce que c'est qu'être? To be or not? Y a-t-il quelque chose après rien ou rien après? Bon, je ne sais pas. Donc, ça m'étonne un peu, ça me désole un petit peu parfois, parce que je faisais aussi des reportages souvent audacieux, compte tenu de mes prises de position. J'étais le politique emmerdeur, et il n'en reste pas grand-chose, je veux dire, de la gauche. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, il y a un petit peu de nostalgie, si on se limite. Mais comme je continue à faire des livres, comme je continue à rencontrer des gens pour leur dire autre chose, ou pour nous raconter, eux et moi, je regrette absolument pas que ça ait laissé un bon souvenir.
Et en même temps, il y avait quand même autour de Jacques Martin un vrai esprit de musical de qualité.
Absolument.
Pour la télévision, ce qui ne s'est pas vu si souvent que ça dans l'histoire.
Absolument. Puis incitant quand même, c'était du direct, c'était quand même du vrai. Mes dessins, en l'occurrence, personne ne les voyait avant, ni ceux de l'équipe, ni de la direction. Et certains dessins, Martin savait bien les mettre en valeur et ça racontait des choses.
Et vous qui avez l'humour parfois noir, comment vous vous entendiez avec Desproges?
Eh bien, je ne savais pas à ce moment-là qu'il avait une humour noire.
Ah oui, c'est vrai que ça s'est
C'est venu par la suite. Il avait le culot de cette interview qu'il a faite de Françoise Sagan, où d'ailleurs je pense que Françoise Sagan avait beaucoup de talent elle aussi. En l'occurrence, il savait faire et inventer des choses. Chacun était à sa place. Nous étions tous différents dans cette aventure et je crois que c'était ça qui faisait que c'était ouvert à un vaste public.
Écoutez, cher Piem, merci beaucoup d'être venu. On a malheureusement plus que quelques secondes, mais vraiment, votre livre La Terre jusqu'au Trognon, je pense qu'il nous fait sourire parfois de façon grinçante, il nous fait réfléchir aussi sur les folies de notre époque. J'imagine que vous êtes déjà en train de préparer autre chose, vous arrêtez jamais.
Il y en a trois qui attendent dans un coin, mais ça n'attend pas, puisque c'est quand même la grande rencontre de la défense de la nature qui va avoir lieu dans 15 jours, je crois, et où on se remet un peu à espérer que les Chinois et les Américains trouveront un accord, et c'est-à-dire que nos arrière-petits-enfants auront quand même un monde possible.
Et on va se quitter avec Gainsbourg, que vous aimez aussi.
Oui, ça, c'est... Voilà, un vrai talent et un vrai humoriste aussi.
Voilà. Je suis venu te dire que je m'en vais, mais on va se revoir bientôt quand même.
Benoît, on le dit toujours et parfois ça existe.
Merci Piem.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Dis adieu à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'aile, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis, à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis heureux. Tu te dis que je m'en vais, oui je t'aimais, oui.
Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans cette chanson d'adieu pour saluer Piem qui vient de nous quitter le 12 novembre à l'âge de 97 ans. Et c'était donc l'entretien que j'avais eu avec lui le 28 novembre 2009.
Thank you.
étude swing, c'était Tony Murena en 1941, ou comment est-ce qu'on détourne une étude pour piano de Hanon pour en faire un excellent morceau d'accordéon avec en plus une belle distribution, Michel Ramos au piano, les frères Ferré à la guitare et Jean Merlin à la contrebasse.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis avant de retrouver Serge Laïc, je continue encore avec mes petits cadeaux de Noël. J'en ai oublié hier quelques-uns sous le sapin. Et d'abord ce merveilleux 78 tours enregistré en 1933 par l'inimitable Pauline Carton qui nous donne une leçon de chant.
Allons, commençons. Savez-vous, ma petite Hélène, puisque vous vous mariez dans deux jours, que c'est aujourd'hui ma dernière leçon pour clôturer harmonieusement mes cours? Ce sera une leçon de musique. On dit que tu te maries. Mais quelle drôle de manie en toutes les jeunes filles de vouloir se marier. J'aurais pu, moi qui vous parle. Mais j'ai fui la promiscuité impudique des intimités conjugales, la brutale révélation de la nuit de noces. Quand je dis brutale, forcenée. Tous les hommes sont des forcenés. Ah, pouah, comme dit Madame Georges Sand. Vous savez, ma chère petite, on m'a certifié que souvent, le soir du mariage, le nouvel époux ne prenait même pas le temps d'ôter ses souliers vernis. Ce qui vaut peut-être mieux s'il a des oignons à l'orteil. Quoi, Monsieur de Lamartine lui-même avait des cordes aux pieds. Ah, ma pauvre petite enfant, tout cela est bien triste. Oui, moi, je suis restée demoiselle. Et bien contente, croyez-moi, bien contente de l'être. Douleur, trahison, vengeance. Ne vous attristez pas, fillette. Mon ex-fiancé se maria plus tard, oui. Et j'ai su qu'il avait rendu sa femme assez, assez malheureuse. Je ris. Au fait, où irez-vous en voyage de noces? À Venise. Ah, Venezia la Bella, chef-lieu de province. 152 000 habitants, les pigeonneaux de Saint-Marc, les princes russes qui épousent par amour, de vieilles chanteuses pleines aux arts, le pont des soupirs. La reine Gina, c'est la reine d'Italie, N'écoutez pas ça, mon enfant, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. L'Afrique du Nord est tentante aussi, avec ses arabes farouches, qui vous enlèvent, vous pressant dans leurs bras nerveux, au galop de leurs petits chevaux pleins de tendresse. Non, enfin, je veux dire le contraire. Buenos Aires, au soir embaumé. Sous le ciel de l'Argentine, bidibing, 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 où l'on meurt de trop aimer, dong, 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 Brive la Gaillarde est bien jolie aussi. Et puis le retour est agréable, vous direz, j'étais là, telle chose m'advint. Mais dites-moi, que chanterez-vous à votre époux, le grand soir, pour le mettre en train? Ah, fasse le ciel, que ce ne soit pas la vieille chanson, tendre et mélancolique, qui a été la romance de toute ma vie. Jadis, je possédais ton cœur, plus d'amour et plus de bonheur. Je suis loin de ton souvenir et je n'ai plus qu'à mourir. Ah, maintenant commençons les exercices. Ouvrez la bouche. Contractez la glotte, appuyez l'aluette sur l'épigastre, placez le son dans l'arrière-gorge et sans comprimer le pharynx, faites C'est ça. Maintenant, étendez-vous sur ce plancher de chêne. Ah, n'oublions jamais que le chêne est un genre de dicotylédone cupulifère. On le trouve dans les forêts et sur les képis des généraux. On y cueille le gui, végétal druidique dont on fait des infusions excellentes pour nos petits désagréments à nous autres femmes. Donc, étendez-vous sur ce plancher de chêne, faites peser sur votre estomac ces 5 gros dictionnaires Larousse et respirez. Bien à votre aise, n'est-ce pas? C'est ça. N'oubliez pas non plus que la musique est tout et les paroles rien. Vous voulez une preuve? Tenez, par exemple, vous chantez. Non, qui reposait sous cette foi de pierre. C'est magnifique, ça, surtout quand je le chante, moi. Eh bien, si vous faites à la place, nonne qui reposait sous cette froide pierre, vous voyez, les paroles ont beau être les mêmes, l'effet n'y est plus. Maintenant, regardez comment je place le son. Mais où êtes-vous, Hélène? Hélène! Et mon Dieu, mais elle est évanouie par terre. Oh, que je suis bête! Oh, pardon, j'oubliais que je vous avais mise en observation sous les dictionnaires. Oh, si votre fiancé était entré, il aurait pu abuser de la situation. Oh, laissez donc! Les hommes sont tous les mêmes, croyez-moi. Du moins, je l'ai entendu dire. 3h30, ma petite Hélène, la leçon est terminée. Demain, la vie conjugale commence. Courage, allez, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Veuillez ne point oublier que j'ai été votre gouvernante, que je demeure à votre entière disposition pour jouer du piano à vos réceptions. Posez des ventouses à votre mari s'il est souffrant. Expédiez vos lettres à la poste restante si vous le trompez et apprendre la syntaxe à ses enfants si vous jugez bon d'en mettre au monde. Pour moi, je reste seule avec mon célibat. Je n'attends plus rien ici-bas. Bonheur perdu ne revient pas. Et mon cœur ne demande au ciel que le repos éternel. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la.
Puisque vous vous mariez, c'était les deux faces d'un 78 tours enregistré en 1933 par Pauline Carton, grande excentrique du cinéma et du théâtre français. Et puisqu'il était question ici de technique de chant, et bien retrouvons maintenant un vrai très grand chanteur, le plus grand peut-être de la musique indienne version Bollywood, Mohammed Rafi, ici dans un film de 1966.
बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है हवाओं महबूब आया है ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में उतर आ ए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है नजारों हर तरफ अब ता दो एक नूर की चादर बड़ा शर्मीला दिल पर है चला जाए ना शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है सेज उल्फत की इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की फजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया
Baharon Poul Barsao, c'était Mohamed Rafi en 1966, ce grand chanteur qui est mort d'ailleurs jeune en 1980, contrairement à sa partenaire Lata Mangeshkar qui est toujours à 90 ans, la légende vivante de la chanson indienne version Bollywood. Mais sur France Musique, en cette émission spéciale de Noël, il est temps maintenant de retrouver, sans plus attendre, notre ami Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et nous voilà donc ensemble pour la dernière fois cette année avec, comme il se doit, je dirais, en période de, entre Noël et le Réveillon, évidemment, un petit programme de musique légère que vous nous avez préparé.
Et oui, alors je suis vraiment heureux de vous retrouver au lendemain de cette fête de Noël. Et alors, pour débuter, j'aimerais vous dire juste un mot à propos de mon facteur, et oui, qui est un véritable mélomane. Il a précédé le Père Noël, souvent débordé à cette période, et après avoir frappé 4 coups à ma porte, eh bien, ce facteur a déposé un message musical dans ma boîte aux lettres.
Postman's Knock, autrement dit le coup du facteur par l'orchestre royal d'artillerie, un enregistrement choisi donc pour Noël par notre ami Serge Laïc.
Eh oui Benoît, alors figurez-vous que j'ai quand même pu voir le Père Noël en ville, au moment où il a débarqué en Normandie, où je réside, il était accompagné par un nombre impressionnant de musiciens de l'orchestre du Boston Pops dirigé par le maître Arthur Fiedler. C'est incroyable, non ?
Le Père Noël, alias Santa Claus, comme on dit aux États-Unis, qui arrive donc en ville avec l'orchestre du Boston Pops sous la direction d'Arthur Fiedler. Et c'est donc aussi Serge Laïc qui nous raconte ses rendez-vous avec le Père Noël.
Et oui, et je l'ai rencontré en Normandie il y a quelques heures, comme je vous l'ai dit. Il était évidemment sur son traîneau, tiré par 8 rennes. Et je peux vous dire, Benoît, que le son des clochettes accrochées à ce traîneau donnait vraiment l'envie de swinguer.
Thank you.
Et vous savez, Serge Laïc, que j'adore ces grands orgues de musicals et de cinéma. Là, c'était l'orgue Wurlitzer de la salle Free Trade Hall de Manchester, avec Nigel Ogden qui jouait ses clochettes swingantes.
Et oui, Benoît. Alors, dans l'année à venir, certains auditeurs auront peut-être à cœur de se rendre dans une station de ski. Ils pourraient alors y retrouver, qui sait, David Carroll et ses musiciens faisant du slalom quelque part en France, dans les Alpes, dans les Vosges ou ailleurs.
Slalom par David Carroll et son orchestre en 1957. Est-ce que je me trompe, Serge Laïc, ou est-ce que ce morceau ne figurerait pas dans une des excellentes compilations de CD de musique légère que vous avez réalisé chez Marianne Melody?
Quelle mémoire, bravo Benoît, voilà. C'est dans le volume 2 de La Magie des Grands Orchestres Internationaux.
Ben voilà, c'est bravo pour les auditeurs. Merci.
Oui, ah, merci. Alors, donc, je vais conclure en disant que c'est l'Américain David Rose qui terminera ce voyage imaginaire. Compositeur du célèbre Holiday for Strings, David Rose interprète Waltzing Bubble, les bulles valsantes, les bulles de champagne que nous allons déguster d'ici quelques jours, espérons-le. Voilà, merci Benoît et rendez-vous en 2021.
Donc très bientôt, mon cher
Serge. Et oui, absolument, dans quelques jours.
We'll be right back.
La valse des bulles par l'orchestre de David Rose en 1968, qui referme donc cette chronique de Serge et Laïc. Et avant de nous quitter, encore pour ce programme spécial Noël, voici l'enregistrement que je préfère peut-être de toute l'opérette viennoise, et pourtant Dieu sait qu'il y en a, ce duo du Tsarevitch de Franz Lehár par Nikolaï Gedda et Rita Streich. Le duo du second acte du Tsarevitch par Nikolaï Gedda et Rita Streich sous la direction de Willy Mathès. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Manon Houssin, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur France Musique où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.